question d'islam par Aleb Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons du féminisme islamique. Pour certains, ce serait oxymorique. Il y aurait un oxymore et une contradiction à parler ou à associer le féminisme et l'islam et l'adjectif islamique. Nous verrons tout ça ensemble avec le professeur Leïla Tawil. Leïla Tawil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctoresse lettres, docteur en philosophie, vous enseignez à l'Université de Genève, vous êtes chercheureux ou chercheuse associée à l'Université libre de Bruxelles. Vous travaillez surtout sur l'œuvre d'islamologues comme le professeur regretté Mohamed Harkoun et tout aussi regretté Ali Merad. C'est que vous vous intéressez aussi à ce travail intellectuel en contexte islamique pour sortir de l'ornière, du marasme et de ces clôtures dogmatiques. Vous vous intéressez particulièrement aux luttes féminines, à ces féministes femmes, aux acteurs et actrices de ce féminisme, à la fois chez les promoteurs théologiens et théologiennes. Comment Leïla Tawil, cet intérêt a été suscité chez vous avant tout?
Eh bien, cet intérêt est né en fait durant les années 2003. En fait, je suis belge, donc je suis née à Bruxelles, mais je suis d'origine marocaine. Et il y avait tout un débat au Maroc sur les réformes du code du statut personnel, qui s'inspire de la charia et qui imposait avec avant les réformes un rapport hiérarchique des sexes, l'autorité maritale, la polygamie, etc. Et il y a eu tout un débat de société qui a, si vous voulez, opposé les islamistes et les féministes. Et tous les deux groupes mobilisaient notamment le concept de la charia dans une optique égalitaire ou dans une optique littéraliste pour les islamistes. Et c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée d'une manière académique à cette question-là, en faisant un sujet de mémoire.
Oui, parce qu'il vaut mieux aller voir et comprendre d'abord les sources scripturaires, essayer de déconstruire, en tout cas de cerner ce dont il s'agit au juste, parce que parfois on dit des mots, la charia, le statut de la femme, la condition féminine dans l'islam, etc. Et vous vous êtes dit, bon, moi je travaillerai là-dessus avec la rigueur académique, l'approche scientifique, la froideur d'esprit, et ça a donné lieu à des ouvrages, à une production intellectuelle considérable, et d'ailleurs vous êtes venu nous en parler. Alors, pouvez-vous répondre au moins à la question, serait-ce oxymorique de parler de féminisme islamique ou pas?
Alors moi, je ne parlerai pas d'un oxymore pour le féminisme islamique, dans la mesure où, comme pour le féminisme juif ou le féminisme catholique ou chrétien ou protestant, eh bien, il y a tout un courant de pensée qui s'inscrit dans la modernité et qui revendique une lecture féminine, voire féministe, des textes religieux. Et en l'occurrence, pour le monde musulman, je dirais qu'il y a oxymore lorsqu'on parle d'un féminisme islamiste, ce qui est différent parce que il existe des femmes islamistes qui, au même titre que leurs compères masculins, défendent l'idée d'un rapport hiérarchique des sexes et surtout d'un rapport complémentaire. Et là, on ne peut en aucun cas parler d'un féministe. Par contre, les féministes islamiques parlent d'une égalité islamique des sexes. Donc on voit bien qu'ici, il y a cette idée de légitimer des revendications égalitaires à partir des sources scripturaires. Alors, c'est historiquement situé, cette émergence de féminisme islamique. On voit que durant les années 90, en Iran, une émergence d'actrices religieuses, des théologiennes, mais aussi des actrices de la société civile, qui revendiquent une relecture plutôt féministe, voire féminine, des textes, parce que ce qu'il y a avec le cas iranien, c'est que elles sont entre l'apologie du texte religieux et la dénonciation d'une lecture patriarcale, mais elles défendent le régime islamique de la République islamique d'Iran. Donc ici, elles sont un peu tiraillées entre une posture apologétique et la dénonciation d'une lecture patriarcale. Mais il y a différents expression de féminisme islamique. Par exemple, en Malaisie, nous avons les Sisters in Islam qui, elles, travaillent avec des théologiens libéraux, avec des compères laïcs, et elles forment quelque part une force d'opposition des forces islamistes. Il y a également, par exemple, Amina Wadoud, qui, elle, dans un contexte non islamique, va dans un premier temps être également dans une posture un peu apologétique en disant que les textes sont viscéralement égalitaires et que ce sont seules les lectures religieuses qui sont patriarcales, en dénonçant le fiqh patriarcal.
Le fiqh étant la jurisprudence.
Mais ensuite, elle va faire l'objet de critiques notamment de Nasr Abu Zayd et de Mohamed Harkoun, en disant que c'est une posture apologétique. Et là, elle va vraiment adopter une posture subversive en disant, là où les textes disent clairement qu'il y a discrimination à l'égard des femmes, comme l'autorité maritale, comme la correction des femmes, comme la polygamie, eh bien, il faut dire non au texte et s'appuyer plutôt sur l'esprit du texte égalitaire.
Si je vous ai bien compris, Leïla Tawil, d'abord, l'oxymore, s'il devait en avoir un, c'est plutôt avec l'expression islamiste de ce féminisme. En ce qui concerne l'adjectif islamique accolé à féminisme, c'est que il faut comprendre ces références scripturaires dans une visée égalitaire et que ce sont plutôt les jurisconsultes hommes mus par le machisme, le sexisme, la phallocratie, voire dans certains cas la misogynie qui les a poussés à légiférer, en tout cas à la manière que nous connaissons. Mais la question, avant de passer à un féminisme plutôt séculier, c'est que y aurait-il, y compris dans d'autres contextes, un féminisme religieux ?
Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'effectivement le féminisme séculier va naître avant le féminisme islamique, déjà avec Houda Sharawi, qui est vraiment une figure phare, mais j'y reviendrai parce que c'est un féminisme séculier. Par contre, le travail que font les féministes islamiques nous rappelle en réalité le travail déjà entamé par Taha Haddad, qui lui va en 1930 écrire un ouvrage, Notre femme, la législation islamique et la société, où il va proposer, c'est un juriste théologien de la grande mosquée de la Zitouna, et il va proposer une lecture égalitaire des textes en prenant l'émancipation des femmes, leur accès à l'éducation, leur accès à l'espace public, aux fonctions politiques et sociales. Mais il va aller très loin en disant que tout ce qui relève du corpus chariatique concernant les femmes relève en réalité de ce qui peut être adaptable, qui relève des mo'amalat, ce qu'on appelle
Les comportements.
Oui, des comportements, et que donc ce qu'il proposait, c'était extrêmement audacieux et subversif. Il disait que il faut abolir la polygamie, il faut abolir la répudiation, il faut abolir l'autorité maritale, il faut instaurer le divorce judiciaire, il prenait l'abandon du voile et il prenait l'égalité successorale en 1930, chose qu'on n'a toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc Taha Haddad est vraiment une personne phare dans l'histoire du féminisme tunisien, parce que lorsque Bourguiba arrive au pouvoir en 1956, il va légitimer toutes les réformes à partir de l'œuvre de Taha Haddad.
Et il se fonde sur, effectivement, les idées et les préconisations, en tout cas la lecture, l'exégèse du théologien syndicaliste Taha Haddad.
Tout à fait.
Leïla Tawil, en réalité, la proto-histoire du féminisme en contexte islamique remonte à bien avant. Alors, vous me disiez juste avant le début de l'émission que vous l'avez débusqué ou décelé dans l'œuvre d'Averroès. On est déjà au XIIe siècle.
On est au XIIe siècle. Alors, peut-être recontextualiser, les quatre écoles juridiques sunnites naissent au IXe siècle. On est deux, trois siècles après la mort du prophète. Et là, nous avons ces écoles, malikites, chafiites, etc., qui vont véritablement asseoir l'infériorité des femmes de manière légalisée. Mais bon, on est dans un contexte patriarcal où cela correspond finalement à l'organisation, à la mentalité de l'époque. Mais néanmoins, là je fais référence plutôt à Jean-Baptiste Brenet, qui est un grand spécialiste d'Averroès et qui est venu nous parler à l'Université de Genève il y a quelques mois d'Averroès et les femmes. Et il mettait justement en lumière la posture avant-gardiste d'Averroès qui défendait que l'homme et la femme avaient la même nature et qui donc avaient ces mêmes dispositions à occuper les mêmes fonctions. Et donc Averroès, dans son travail Bidayat al-Mujtahid,
qu'on traduit généralement par, le titre est long, hein, c'est le début de celui qui accomplit l'effort et la fin de celui qui s'économise, sous-entendu celui qui s'économise par paresse intellectuelle.
Alors, adopte des postures qui feraient pâlir les musulmans d'aujourd'hui, dans la mesure où il disait que la femme peut occuper le poste d'imama, donc diriger la prière devant les femmes et les hommes. Hein, la femme pouvait occuper le poste de gouvernance, gouverner un pays, le poste de philosophe. Donc on est vraiment dans ce qu'on appellerait aujourd'hui en fait une approche genrée où les rôles masculins et féminins sont en réalité le fruit de constructions culturelles et historiques et donc changeables. Et donc on n'est pas dans la nature différente, biologique, qui tout au long de l'histoire a justifié l'écartement des femmes de l'espace public et justement l'infériorité des femmes. Bien sûr, Averroès réfléchit dans un contexte avec des catégories de pensée médiévales.
Bien entendu.
C'est-à-dire que nous sommes dans des rapports hiérarchiques entre l'élite et la masse, entre où il y a les hommes et les femmes libres et les esclaves, etc. Mais néanmoins, ces positions-là sont vraiment d'une grande modernité.
Il ne s'agit pas de commettre le moindre anachronisme ou le parachronisme, comme disent certains. Et dans ce sillage, il suffit aussi simplement de rappeler, chose qui est très peu connue, c'est que dans son commentaire moyen de la République de Platon, ce qu'on appelle sous l'acronyme CMRP, Averroès disait que le gymnase doit être le lieu de l'émancipation des garçons et des filles, aussi bien pour l'instruction que pour les activités physiques, ce qui mettrait à mal toute ces questions des filles emmitouflées sous des voiles ou sous quelques vêtures que ce soit. Chose que nous aborderons ensemble, Leila Tawil. Maintenant, vous avez évoqué Tahar Haddad, mais il y en a d'autres aussi parmi les théologiens ou les actrices du féminisme en contexte islamique dès la fin du 19e siècle. On est dans le mouvement de la Nahda, la Renaissance, Résurrection, Éveil, mais aussi dans le mouvement de la réforme religieuse.
Tout à fait. Nous sommes dans le mouvement de la réforme. D'ailleurs, le féminisme naît dans ce courant de pensée de la Nahda qui commence au 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et là, c'est un mouvement intellectuel, culturel, politique et religieux de renaissance arabe. Et un des postulats phares des tenants de ce courant-là, c'est de dire il n'y a pas d'émancipation de la société sans l'émancipation de sa moitié, à savoir les femmes. Parce que nous sommes dans un contexte de réclusion sociale des femmes qui a été travaillé durant des siècles. Et les clercs religieux ont contribué à cette assignation des femmes dans l'espace privé en disant que justement le rôle des femmes était limité au rôle de mère, etc. Et donc, elles n'avaient pas accès à l'espace public et en plus, elles étaient entièrement voilées. Et donc, elles n'avaient pas d'identité sociale et politique sur l'espace public et elles ne contribuaient pas donc à l'essor de la société. Donc, les premiers avocats du féminisme en terre d'islam et arabe sont effectivement des, soit des juristes théologiens, soit des penseurs comme Qasim Amin qui écrit en 1899 Tahrir al-Mar'a, la libération de la femme. J'ai parlé également de Taha Haddad. Et donc,
Et puis il récidive, si je puis dire, je reviens, Qasim Amin avec la nouvelle femme.
La nouvelle femme, exactement.
Avec quelques années plus tard.
En réaction justement à, au tollé de contestation de la part des milieux conservateur qui voyait dans cette libération de la femme une menace pour l'ordre social. Parce qu'on est vraiment dans une conception qu'on pourrait qualifier une conception fonctionnaliste de théorie de l'ordre social qui n'est en réalité pas loin de ces théoriciens du siècle des Lumières où on a écarté également les femmes du suffrage universel ici même. Hein, en 1848, le suffrage universel est masculin. Et donc de là est né les mouvements féministes. Eh bien, dans la conception islamique, de manière un peu plus radicale, on écarte complètement les femmes de l'espace public. Bon, il y a une catégorie de femmes, ce sont surtout les femmes des milieux aisés, parce que les femmes esclaves, les femmes des milieux populaires, elles occupent en réalité l'espace public. Et donc, par rapport à cette réclusion des femmes, il y a tout ce travail réalisé par Rifat Tahtaoui d'abord, hein, qui va vraiment défendre...
Lui, c'est 1801-1873.
Oui, 13, il meurt. Et lui, il défend vraiment l'accès égalitaire des filles et des garçons à l'enseignement, parce qu'elles étaient écartées. Et lui aussi va vraiment être critiqué par rapport à ses postures, et il va donner des arguments religieux pour défendre ses postures. Donc, nous avons une instance de légitimité religieuse qui est mobilisée par des acteurs favorables à l'égalité et des acteurs qui veulent maintenir les femmes dans une posture d'infériorité. Et donc là se joue la question de l'interprétation. Hein. Et une chose qui peut paraître très simple, mais qui en réalité est révélatrice de la posture qu'on a par rapport au texte, il y a un propos qui est attribué à Ali ibn Abu Talib, qui dit « le Coran ne parle pas de par lui-même, ce sont les hommes qui le font parler », eh bien la linguistique moderne nous dit qu'effectivement, contrairement à la linguistique prémoderne qui disait que le Coran contient un sens, ou les textes religieux, et qu'il fallait le découvrir, la linguistique moderne met bien en évidence le rôle de l'interprétation du lecteur et le rôle du contexte d'interprétation.
Oui, Ali ibn Abi Talib étant le cousin et gendre du prophète, et les partisans d'Ali sont les chiites. J'ajoute simplement cela pour nos amis auditeurs. Le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler en lui donnant son sens. Avec vous sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam pour parler du féminisme en contexte islamique, du féminisme qualifié d'islamique aussi, pour comprendre sa genèse, ses actions, ses résultats. Vous parlez aussi, vous avez mené beaucoup de recherches pour le féminisme séculier. Vous êtes docteur en lettres et docteur en philosophie, vous enseignez à l'Université de Genève, vous êtes chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles et vos travaux portent sur l'œuvre de Mohamed Harkoun et l'œuvre aussi d'Ali Merad, qui nous ont quittés l'un et l'autre en laissant un vide immense, en tout cas à propos de ces questions. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les actrices parmi les femmes musulmanes, même si ce n'était pas dans une perspective religieuse, qui ont pris à bras le corps cette question du féminisme?
Oui, bien entendu, dans la mesure où justement ce sont d'abord des femmes séculières qui justement ont revendiqué l'égalité des sexes. Et là, on est au début du XXe siècle et l'une des grandes figures est Houda Shaharawi, qui crée en 1923 l'Union féministe égyptienne. Et c'est un mouvement qui prône l'égalité des sexes, qui prône le droit de vote pour les femmes et qui va s'allier avec des femmes coptes, avec des femmes juives et qui va vraiment également s'inscrire dans une solidarité avec les féministes du monde entier, dans la mesure où Houda Shaharawi, avec ses compères féministes, elles vont participer à des colloques, notamment à Rome.
Le fameux colloque international ou mondial sur le féminisme à Rome, où elle interpelle Mussolini.
Oui, elle interpelle Mussolini en lui disant, en l'invitant à accorder aux femmes italiennes le droit de vote. Donc on est vraiment dans un temps partagé par l'ensemble des contrées du monde où on revendique ensemble une égalité des sexes. Donc c'est vraiment un combat universel des droits humains, évidemment, qui s'articulent à des cultures locales, à des contextes locaux. La charia est dans le monde musulman, il n'est pas ici en Europe, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des combats communs pour une égalité des sexes. On voit bien que ici en Europe également, le code napoléonien, justement dans cette disposition, avait également établi le statut de femme mineure, etc. Donc c'est un combat par rapport à ces différentes dispositions.
Et Marie Curie, prix Nobel de foi, ne votait pas.
Exactement. Donc et ici, le droit de vote, c'est en 1944. Donc c'est un combat récent, mais subversif, qui réussit parce que aujourd'hui on avance. Évidemment, dans le contexte arabe et musulman, on va voir que dans les contextes de colonisation où ces féministes islamiques vont, plutôt ici séculiers, vont systématiquement s'allier au Parti nationaliste de libération, donc contre l'impérialisme colonial, elles vont par la suite être pourtant discréditées en disant que ce sont des purs produits de l'impérialisme occidental. Or, elles font bien la distinction entre les valeurs communes d'égalité, de liberté, de démocratie et la dénonciation de l'impérialisme qui est par ailleurs dénoncée aussi par d'autres comme notre amie Simone de Beauvoir, la grande féministe qui avait participé à la signature des 121 pour dénoncer l'occupation française en Algérie et pour prôner l'indépendance. Donc on est, si vous voulez, avant l'indépendance, dans un mouvement d'espoir d'égalité en disant qu'une fois l'indépendance acquise, eh bien, forcément, l'indépendance des femmes, les droits des femmes seront également acquis dans la mesure où les femmes participent, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Égypte, à la libération des pays.
Non, simplement pour revenir à, pardon, je vous ai interrompu, Leïla Tawil, c'est pour continuer à parler de Houda Shaharawi. Au-delà de l'anecdote, elle rentre de Rome par bateau avec ceux qui l'ont accompagnée. En accostant à Port Saïd, elle prend un train avec des wagons séparés, le wagon dit harem. Mais en descendant à la gare du Caire, elle fait quelque chose qui restera dans l'histoire, c'est qu'elle se dévoile et sous les applaudissements des femmes qui étaient avec elle, et on rapporte que au bout de 3 ans, le voile a quasiment disparu de la ville du Caire.
Oui, effectivement, Houda Shaharawi, lorsque elle revient de Rome avec son bras droit, Zezana Barawi, eh bien, elle décide de ne plus se soumettre à ces règles statutaires qui consistaient à porter un voile, mais en signe d'appartenance sociale à la classe aisée. Donc les femmes juives, les femmes chrétiennes portaient également ce voile statutaire et elles ont pris cette décision de se dévoiler parce qu'elles ont compris l'enjeu politique du corps des femmes dans l'espace social et politique. Parce que avec le voile, on n'a pas d'identité. Et donc, en réalisant cet acte subversif, eh bien, elles mettent en lumière le fait que les femmes, au même titre que les hommes, peuvent occuper l'espace. Les hommes ne font pas l'objet d'un voilement. Donc, le voilement est a vraiment un fondement patriarcal. Il révèle non seulement dans ses origines païennes, hein, 1200 avant Jésus-Christ, on a déjà des lois.
La fameuse tablette A40 de Téglath-Phalazar.
Phalazar, exactement.
Le premier roi assyrien qui a pris sur lui de voiler la hiérodule. La hiérodule étant la prostituée sacrée réservée.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la signification du voile à l'époque se retrouve dans l'exégèse coranique. C'est-à-dire qu'il signifiait à l'époque le signe de distinction sociale et il remplissait également un rôle patriarcal de pudeur, de modestie. Et en cela, Houda Charim, en faisant cet acte subversif, elle remet en question cet ordre établi. Et comme je disais, même dans l'exégèse coranique, on voit chez Tabari que le voile est plutôt une mante et fait référence à...
Tabari étant un exégète mort en 923, et avec cette lecture, mais vous y reviendrez, vectrice ou vectorielle ou finaliste, c'est afin d'être reconnu pour ne pas être offensé.
Tout à fait.
Et Houda Charaoui dit de toute façon avec l'éducation, et nous sommes prêtes à nous défendre nous-mêmes et nous ne serions pas offensés.
Voilà, donc le voile est lié à la réclusion des femmes. Et donc, l'émancipation des femmes se fait par le dévoilement. Et ça, toutes les féministes du début du XXe siècle posent cet acte de dévoilement. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les féministes séculières ne défendent pas le port du voile. On voit que le hijab, tel qu'il est prôné aujourd'hui, est en réalité une réaction justement à ce dévoilement et qui est portée par les frères musulmans dans un premier temps, l'association des frères musulmans. Et c'est d'abord un voile militant, mais qui va ne pas avoir une grande influence jusqu'à les années 80, où on est dans justement des revendications islamistes qui viennent quelque part remplacer les revendications pan-arabe, et avec tout son lot d'échecs et d'espoirs déçus finalement de la part de la population, parce qu'après les indépendances, il y a ce qu'on appelle le socialisme arabe, porté notamment par Nasser, où il y a une véritable volonté de modernisation et où la question des femmes fait partie justement de ce projet de modernisation, on le voit avec Bourguiba notamment, mais où cette modernisation n'est pas accompagnée d'une démocratisation.
Hein? Leïla Taouil, encore peut-être deux mots sur Houda Charaoui, mais pas uniquement elle. Vous avez parlé de son bras droit femme, hein, Sezana Barawi, peut-être Doria Shafir plus tard. Elles ont compris que l'importance de l'éducation est telle, et nous le savons, je l'ai lu dans votre ouvrage, c'est que quand une femme est instruite, éduquée, elle parle naturellement avec les hommes, mais quand elle accuse un retard au niveau de son instruction et de son éducation, elle ne sait même pas pouvoir parler en leur présence et elles sont intimidées. Donc elle a compris ou elles ont compris l'importance capitale de l'éducation et de l'instruction des filles.
Tout à fait. Toutes les féministes de la première heure jusqu'à l'heure d'aujourd'hui ont compris que c'est par l'éducation qu'on s'inscrit dans un rapport d'égalité, hein, où finalement l'individu va acquérir sa liberté, son autonomie, sa possibilité de s'affirmer, d'argumenter à partir du moment où il a accès à la culture et à l'éducation et justement à toutes ses ressources lui permettant d'acquérir un esprit critique, au même titre que les hommes. Et donc, c'est effectivement l'ignorance qui a fait en sorte qu'on a maintenu les femmes dans un état de suggestion et qui a été également une volonté politique de les maintenir dans un état de suggestion. Et donc, Houda Charaoui, comme d'autres grandes féministes, comme Malika Al-Fassi au Maroc, etc., ont compris que la première des choses qui était nécessaire, c'était l'accès à l'éducation pour les filles et les garçons, pour après avoir également une autonomie financière, pour pouvoir travailler au même titre que les hommes, et pour pouvoir s'adresser à l'autre, non pas en fonction de son appartenance sexuée, mais en fonction de son appartenance du genre humain, mais en ayant accès justement à l'éducation.
Alors, il y a des féministes dont la trajectoire de vie est extraordinaire et édifiante de par ce qu'elles ont vécu, une vie très riche. Il y a par exemple Mennoubia Ouartani en Tunisie ou d'autres. Le référent religieux pour elles est là. Il n'était pas question pour elles de remettre en cause les questions de foi aux questions religieuses, mais le fait de s'insurger contre la claustration des femmes et le prétexte sacralisant cette minoration des femmes. Par la suite, ce combat, cette lutte, se sont inscrites dans l'émancipation des peuples, toutes proportions confondues, toutes classes confondues, si je puis dire, et surtout garçons et filles, hommes et femmes. Et on ne peut pas prétendre à une quelconque émancipation, c'est la moitié de la société, la moitié de la nation est reléguée à un autre plan.
En fait, les premières expressions féministes, par exemple en Tunisie, nous avons des expressions qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le réformisme musulman, comme Pshira Mrad, qui crée l'Union musulmane des femmes tunisiennes en 1936. Mais nous avons également l'Union des femmes de Tunisie, créée en 1944, et qui est plutôt de tendance laïque et communiste. Donc, ce qui se joue dans cette question religieuse et dans la question des femmes, de manière plus fondamentale jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est comment sortir en réalité de ces différentes lectures. Parce que on peut tomber facilement dans ce qu'on appelle les conflits de lecture à propos des textes religieux. Parce que ce qui se joue dans une lecture égalitaire de versets coraniques qui sont explicitement inégalitaires, comme l'autorité maritale, etc., c'est de dire qu'il faut contextualiser, etc. Mais néanmoins, on reste limité dans cette instance de légitimité. Et rien n'empêche à un salafiste, un orthodoxe, de dire que, à partir de cette instance de légitimité, eh bien, je défends l'idée d'une lecture patriarcale, puisque c'est dans le texte. Et donc, on sort pas de ce conflit de lecture, parce qu'en réalité, on n'interroge pas le statut du texte religieux également, puisque depuis le 9e siècle, on est dans cette idée de dire que le Coran est la parole de Dieu, incréée, intemporelle. Bon, je ne vais pas revenir sur le débat du Coran créé et mu'tazilite, mais qui est d'une grande modernité, puisqu'on est dans une approche plutôt historique. Mais aujourd'hui, l'enjeu dans ces sociétés où on s'inscrit dans la modernité, et les féministes tunisiennes l'ont très bien compris, c'est de dire qu'il faut émanciper la question des droits des femmes du discours théologico-juridique et l'asseoir sur le terrain de la citoyenneté, des droits humains, de la démocratie. Parce que moi, j'ai fait un travail sur les féministes de l'islam à partir de ma thèse doctorale et je peux qualifier leur travail qui est extrêmement important. Je le répète, est légitime dans la sphère religieuse pour déloger justement ces lectures patriarcales. Mais néanmoins, sur l'espace social et politique, ce féminisme peut contribuer d'une part, comme au Maroc, à un phénomène de réislamisation. On est dans un paradigme quand même islamiste, où on va redonner quelque part un fondement religieux et sacré pour des revendications citoyennes et égalitaires. Ça, c'est une des limites. L'autre limite, c'est que ces féministes islamiques font ce que moi j'appelle une acrobatie ijtihadienne.
L'ijtihad étant l'effort de réflexion, d'interprétation.
Et donc on n'arrive jamais à une égalité inconditionnelle. Elle est toujours conditionnée par un texte qui, par son contexte d'émergence, n'a pas le principe d'égalité, de modernité, de citoyenneté. Donc, ce que disent les féministes séculières et laïques tunisiennes, comme Sana Ben Achoul, et je rejoins vraiment leur posture, c'est de dire, sortons cette question des femmes, de la question de l'identité islamique, parce que les femmes sont considérées comme étant porteuses de la tradition. Et sortons justement de ce débat qui oppose justement les islamistes qui font de la question des femmes la centralité, parce qu'il n'y a pas vraiment de projet sociétal, si ce n'est le contrôle des femmes, et également le voilement des femmes, et on voit aujourd'hui que cette question revient sur le devant de la scène. Et posons cette question des droits des femmes sur le terrain des droits humains. Et on voit également au Maroc l'émergence de jeunes féministes extrêmement subversives et courageuses, comme la fondatrice de mouvement alternative pour les libertés individuelles, qui est Betty Lashkar, qui défend également justement la liberté de conscience au Maroc. Au Maroc, nous n'avons toujours pas cette liberté de conscience. Aujourd'hui, on l'a juste en Tunisie, dans le monde arabe. L'égalité et la démocratie comme étant justement des droits universels sur lesquels on ne doit pas faire de concessions.
Quelle est, dans ce cas, l'audience de celle qui, au nom du retour à la tradition, ou d'être gardienne de la tradition ou de l'orthodoxie, comme une Nadia Yassine, qui, dans un de ses ouvrages, tout voile dehors, tout au masculin, parce qu'elle milite pour justement le port du voile, avec cette idée aussi de la complémentarité au sein de la famille, puisque la famille étant une valeur refuge pour elle, auprès de la jeunesse maghrébine d'une manière générale, marocaine particulièrement. Quel est l'impact de ce discours ?
Comme j'aime à dire souvent, la réalité est créée par les acteurs et les actrices sociaux. Et effectivement, on le voit pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Égypte. Après les indépendances, on voit une forme de modernisation avec une culture, avec la poésie, la musique, le théâtre, le cinéma. Et à partir des années 80, suite à l'échec du panarabisme, on voit vraiment une présence très importante d'acteurs et actrices islamistes, religieux, avec le wahhabisme en plus qui vient également travailler le champ social et politique et vient exercer une influence sur les représentations et sur les pratiques sociales genrées, mais d'une manière, moi j'appelle ça un patriarcat bienveillant islamique, c'est-à-dire que on va voir valoriser la femme à partir de son rôle maternel, à partir, et effectivement ça a de l'impact auprès de la jeunesse, on le voit au Maroc avec l'association de l'Adol Ihsan, parce que Nadia Yassine, c'est la fille
justice et bienfaisance, et la fille du fondateur,
et donc ils ont toute une série d'associations au niveau de la société civile, et donc ils influencent effectivement les citoyens et citoyennes parce qu'ils parlent au nom d'un capital symbolique qui est l'islam. Et généralement, les citoyennes et citoyens n'ont pas une connaissance critique de la question de l'islam et n'ont pas en tête la généalogie en fait des différentes formations idéologiques comme le wahhabisme, les frères musulmans, mais également d'autres formes d'expression islamique comme le soufisme, comme l'islam critique. Et donc, toute personne qui parle au nom de Dieu incarne quelque part Dieu sur terre. Moi, et donc, mais bon, évidemment, ce ne sont pas les seuls acteurs. Il y a les actrices féministes qui savent très bien que ces acteurs sont une menace pour leurs revendications parce qu'ils remettent en question, par exemple, le code du statut personnel. On l'a vu le 12 mars 2000. Il y a eu deux grandes manifestations. L'une.
Dans deux villes différentes.
L'une à Casablanca, qui était portée par les islamistes, femmes et hommes confondus. et l'une à Rabat, portée par des féministes, hommes et femmes, qui plaidaient justement pour... C'était un plan en fait d'action pour l'amélioration des femmes dans tous les domaines, mais également dans le code du statut personnel. Et pour la première fois, on a vu les frères musulmans, parce que ce sont des frères musulmans mais qui s'appellent Adel et Hassan, descendre dans la rue.
Adel et Hassan, et encore justice, une fois, étant justice et bienfaisance.
Descendre dans la rue pour justement influer sur le devenir de la place des femmes dans la société. Et donc, on voit bien la centralité de la question des femmes aujourd'hui. لم يبق هنا أحد لم يسمع لم يسمع ضجاته أبواق تنفخ في السور بكاء وعويل مقطوع وصهيل خيول شاردة
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Leïla Taouil, docteur en philosophie et qui enseigne à l'Université de Genève tout en étant chercheur associé, chercheur, chercheuse, chercheure. J'ai toujours des difficultés avec la féminisation des titres, bien que nous soyons aujourd'hui dans une émission qui traite du féminisme. Donc Leïla Taouil, vous êtes chercheur associé à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et surtout vos travaux portent sur l'œuvre du regretté Mohamed Harkoun, l'œuvre aussi du regretté Ali Merad, qui sont deux grands islamologues de renom. Pour cette dernière partie, sans que nous ayons une focalisation excessive et qui donne de l'écho à ce dont nous voulions, vous et moi, peut-être amoindrir l'impact, c'est pour simplement parler encore une fois de cet accoutrement, du revoilement des filles ou des femmes, alors qu'il a disparu grâce à l'œuvre et à l'action d'une Houda Sharawi, d'une Douria Shafir, d'une Menoubia Wartani et d'autres. C'est dans le sillage de la révolution de Khomeini que c'est revenu, ou c'est la conjonction du wahhabisme des frères musulmans de la révolution iranienne que tout cela est revenu, ou c'est une sorte de revendication politico-identitaire qui se manifeste par des effets vestimentaires et peut-être aussi par une obsession de la norme alimentaire et vestimentaire aussi.
Effectivement, on voit que parmi les premiers traités féministes comme le traité de Taha Haddad, eh bien il prend les versets coraniques en question relatifs à la tenue vestimentaire des femmes et il prône le dévoilement de manière claire et évidente. Et on va voir progressivement un dévoilement et d'ailleurs après les indépendances, la politique de dévoilement fait partie de la politique de modernisation de Bourguiba, mais on le voit également au Maroc, où les femmes des milieux aisés se dévoilent, et durant la période du panarabisme...
Et même la famille royale.
La famille royale, tout à fait. La famille royale.
Comme commandeur des croyants.
Ouais, Amir Mouminin. Avec justement sa fille qui porte un discours sans voile. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que au moment justement de ce basculement de paradigme dans le monde arabe et musulman, qui est effectivement marqué par l'avènement en 1979 de la République islamique, mais également par une offensive religieuse wahhabite, on va voir que une des premières revendications des islamistes et le voilement des femmes. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sur YouTube et où on voit que Nasser, en 1953, rit en fait des revendications portées par le chef de l'organisation des frères musulmans, en lui disant « il faut que tu voiles toutes les femmes ». Et puis on voit dans l'audience une personne qui dit qu'il se voile lui-même.
Hein? Oui. À ce moment-là,
à ce moment-là, le voile, le hijab tel qu'on le voit, est pratiquement pas porté. Ce sont vraiment soit des voiles traditionnels, soit vraiment un dévoilement où les femmes marchent la tête sans voile, de manière moderne.
Et les épouses des théologiens musulmans, la fille même du recteur de l'université Al-Azhar, n'étaient pas voilées, et c'est pas pour autant que les gens pensaient qu'elles étaient des femmes dissolues ou des femmes qui étaient de petite vertu.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que, au moment de la révolution, le premier acte de Khomeini correspond finalement à cette idéologie des frères musulmans sunnites, mais ici c'est la version chiite. Et on va voir, petit à petit, un discours très très présent prenant le port du voile en disant qu'il s'agit d'une obligation religieuse. Et on va voir que d'abord, ce sont des militantes qui le portent. Et ensuite, petit à petit, comme le dit Sophie Bessis, eh bien, ce voile militant va devenir un voile généralisé. Et en cela, le projet politique des frères musulmans a vraiment réussi. Parce que aujourd'hui, quand on voit l'Égypte, eh bien, la plupart, la norme est le voile. Et moi, en réalisant en fait un travail sur la place des femmes dans les discours de réislamisation à Bruxelles, parce qu'on est dans une logique locale globale, oui. Eh bien, j'ai pu constater qu'en réalité, cette pratique du voile généralisée est liée à une connivence entre les théologiens orthodoxes, les télécoranistes, les salafistes, les fréristes, les wahhabites, qui vont tous prôner d'une manière récurrente l'obligation pour la femme de porter le voile. Et donc, si vous voulez, à travers les réseaux sociaux, à travers les chaînes satellites, on va voir ce discours qui vise en réalité à contrôler le corps des femmes et la sexualité des femmes.
On est vraiment en les culpabilisant.
En les culpabilisant, en leur disant que, dans le discours salafiste, qu'elles risquent de brûler en enfer, etc. Quand on se penche, si on fait un peu la généalogie de cette pratique-là, lorsqu'on regarde le corpus coranique, on voit d'abord qu'il est composé de 6236 versets. Et qu'il n'y a que 3 qui font allusion aux vêtements. Où le voile sur la tête n'est pas décrit.
Hein. Il n'a jamais été question de cacher la chevelure.
Voilà, et on parle du prophète, dit à tes épouses, à tes filles, aux femmes de croyants, de revêtir leur mante. Jalal al-Bihinna. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on se plonge dans l'exégèse, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tous les exégèses coraniques sont unanimes pour dire qu'en réalité, les femmes visées étaient les femmes du prophète, mais également les femmes de condition libre, qui étaient dans un moment donné offensées. On est en 627, hein, c'est la guerre du fossé, et il y a une grande tension, et les femmes sont offensées par...
Et surtout, chère Leïla Tawil, pour ne pas entrer dans des détails scabreux, c'est surtout lorsqu'elles sortaient le soir.
Elles sortent le soir pour aller faire
quelques besoins physiologiques, et les hommes sont les hommes avec leurs bêtises d'hommes,
voilà,
les embêtaient.
Et les harcèlent. Et donc là, on voit que le compagnon en mal dit au prophète, dit à tes femmes de se voiler. Et puis vient, selon la tradition islamique, ce verset en question. Mais ce qui est également
lequel Omar interdira à la femme de basse extraction de se voiler.
Exactement. Et donc, si vous voulez, dans le Coran, la partie à couvrir est la poitrine. Hein, on le voit de rabattre leur fichu sur leur poitrine. Dans l'analyse de ce verset coranique qui est à chaque fois mis en avant par les acteurs religieux actuels, eh bien, on voit qu'en réalité, il s'agit de se distinguer des femmes libres. Enfin, c'est une distinction entre les femmes libres et les femmes esclaves, parce que les femmes esclaves, à l'époque, d'ailleurs pré-islamique également, pouvaient faire l'objet malheureusement d'harcèlement sexuel, etc. Et donc, si vous voulez, ce verset coranique va consolider la distinction entre les femmes libres et les femmes esclaves, et on va trouver différents récits attribués à Omar où il interdisait aux femmes esclaves de porter le voile. Et donc moi je défends la thèse que le voile n'est pas un acte religieux, mais un acte de distinction sociale. Parce que dans les sources islamiques, nous avons par exemple l'imam Malik qui parle de l'esclave musulmane qui prit son voile. Et il dit, dans la Mudawana al-Kubra, tel est son vêtement quotidien, donc elle peut prier sans voile. Et si vous voulez, quand on analyse les discours actuels, on voit qu'il y a un glissement sémantique par rapport à cette question du voile, de distinction sociale médiévale à une obligation religieuse actuelle, parce que tous les acteurs religieux omettent évidemment ces sources-là. Parce que dans la logique chariatique, lorsque les éléments d'application disparaissent, comme l'esclavage depuis le 19e siècle, eh bien, la pratique disparaît avec.
Bien entendu.
Puisqu'il y a des versets relatifs aux esclaves qui sont plus d'application, puisque nous avons les butins de guerre, etc. Mais lorsqu'il s'agit du voile qui n'est même pas précisé dans le Coran, eh bien, on voit, sous la bannière de l'immuabilité de la loi islamique, une opposition farouche par rapport à une critique relative à la question du voile.
Qui n'est qu'une construction humaine, cette fameuse immuabilité.
Exactement.
À supposer d'ailleurs qu'il faille...
Alors bien évidemment, je défends la liberté culturelle, la liberté individuelle des femmes voilées. Mais ce que je mets ici en lumière, c'est je pose un regard critique sur ce voile patriarcal imposé par les hommes. Et je mets également en lumière le fait que cette question du voile est souvent revendiquée sur le registre religieux et identitaire. Or, on voit bien qu'en réalité, il y a une question de rapport de genre. C'est une catégorie sexuée, les femmes, qui doivent se voiler devant une autre catégorie, les hommes, et c'est basé sur la morale sexuelle. Et si c'était une question d'identité, eh bien que les hommes se voilent.
Bien, ma chère Leïla Taouil, nous arrivons au terme de l'émission et vous aurez l'occasion une autre fois si vous le souhaitez et vous êtes la bienvenue pour l'exprimer davantage. Vous l'avez exprimé dans le cadre de la raison religieuse, comme on dit, et avec cette idée de s'enchaîner à la référence scripturaire. Le combat des féministes maintenant est celui de mener un travail pour que la femme soit un sujet libre, autonome, avec l'égalité juridique et l'égalité ontologique entre les êtres. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. عندها اشتعلت والتهبت وكدت أفقد صوابي صبري ولساني والتهبت وكدت أفقد صوابي صبري فركنت خلف الطاولة ثم رعت إلى الوسط وهناك وقفت جامدا وقف انتصفت اللمبة على وجهي فبدوت كالزائل الغائب وصمت لحظات صمت طويلة وعلت نبرتي وكررت أنا تهت كثيرا ومت كثيرا وصرت وحيدا تهت كثيرا مت كثيرا صرت وحيدا تهت مت وصرت وحيدا تهت مت وصرت وحيدا تهت كثيرا مت كثيرا صرت وحيدا تهت